Radio Spirale. La Maison de la Poésie recevait en avril dernier la poète et romancière Hélène Monette pour une rencontre intime en compagnie de Jonathan Lamy. L'entretien qu'on pourra entendre ici est désarmant de sincérité. L'écrivaine s'y présente dans une intégrité rare, dépouillée de tout artifice, qu'elle ponctue de lectures d'une beauté tout aussi sincère.
Bonsoir. Bienvenue à la Maison de la Poésie. Et ce soir, donc, dans cette série qu'on a amorcée il y a quelques années déjà, Paroles sous le signe de l'amitié, on entendra la poète Hélène Monette s'entretenir avec le poète et critique Jonathan Lamy. Et c'est un dialogue en poésie et en musique. Hélène Monette nous dira aussi certains poèmes et accompagnée à la guitare avec donc Chris Ma, qui est un jeune guitariste qu'on a découvert grâce à Yin Ferrier, un autre poète, qui a tourné en France, à Grenoble et puis Lyon, avec Chris et puis Joséphine Bacon et Carole David, il y a un an déjà, au Printemps des poètes. Alors ce soir, j'aimerais vous présenter, donc pour commencer, Hélène Monette, poète, romancière, qui est une des figures de proue de sa génération. Elle a publié 3 recueils de poésie, « Montréal brûle-t-elle »,« Lettres insolites » et « Le diable est aux vaches ». Auteur de recueils de récits « Crimes et chatouillements » en 1992, puis du roman « Le goudron et les plumes » en 2001, elle a aussi publié dans plusieurs périodiques littéraires. Présente lors de nombreuses tournées et festivals au Québec et à l'étranger, Hélène Monette a collaboré à de nombreux projets poétiques et artistiques. Ses recueils, alors d'autres que les 3 premiers, publiés en 1987, 1990 et 1992, donc « Le blanc des yeux » et « Un jardin dans la nuit », en 1999 et 2001, ont été finalistes au prix Alain Grandbois de l'Académie des lettres du Québec. Donc en 2009, elle a reçu le prix du gouverneur général pour son recueil « Thérèse pour joie et orchestre ». Et puis en 2011, donc tout récemment, elle a fait paraître « Là où était ici », toujours aux éditions Boréal. Jonathan Lamy, donc poète, performeur et critique littéraire, il cultive aussi bien la réflexion littéraire que la performance artistique. Il a publié des poèmes, comptes rendus et articles dans différentes revues et ouvrages collectifs. Je dirais que c'est un des rares poètes, donc qui fait aussi de la critique de poésie de ses contemporains. Donc critiques qui sont très appréciées. Donc, l'intérêt pour l'autre chez Jonathan Lamy, c'est quelque chose... ce soir, on va pouvoir en profiter avec Hélène. Alors, auteur du recueil « Le vertige dans la bouche » en 2005, et puis plus récemment « Je t'en prie », un titre paru en 2011 au Norrois. Il a co-dirigé un dossier de la revue « Voix et images » portant sur l'œuvre de Denis Vanier en 2006. Et puis, il a récemment déposé sa thèse au programme de doctorat interdisciplinaire en sémiologie de l'Université du Québec à Montréal. Alors, donc, il continue de collaborer à des lectures et des interventions poétiques dans l'espace public. Donc, Chris Ma est un jeune poète, guitariste, comme je le mentionnais tout à l'heure, et qui a collaboré déjà avec beaucoup de poètes, du côté anglophone aussi. Et puis, donc on remercie Yin Ferrier de nous l'avoir fait connaître. Alors, il a collaboré au CD de Yin Famarcon, Montréal, et où il était aussi de la tournée à Lyon et Grenoble. Donc, je vous laisse maintenant la place à vous. On vous applaudit.
Merci Isabelle, merci à la Maison de la Poésie aussi d'avoir mis sur pied cette série qui est très plaisante de paroles sous le signe de l'amitié, une occasion, une série d'occasions, occasions qui sont somme toute rares d'entendre les poètes parler. Donc on les voit plus. Gaston Miron se faisait inviter à Femmes d'aujourd'hui. Les poètes d'aujourd'hui ne se font plus beaucoup inviter à parler de leur œuvre ou à parler de ce qui les intéresse, ce qui les préoccupe. Donc cette série-là est intéressante et précieuse. Et elle convient aussi, me semble-t-il, tout à fait bien à la pratique et à l'œuvre d'Hélène Monette, en ce sens que donc on discute, on l'entend parler et on l'entend lire des textes avec de la musique. Donc pour moi, l'œuvre d'Hélène Monette s'inscrit dans une démarche qui est multidisciplinaire. On peut peut-être commencer par parler un peu de ça. Et justement, donc cette soirée est multidisciplinaire et elle est multiforme dans la parole. Il y a de la lecture et des entretiens, un peu comme il y a des contes et des poèmes ou des récits et des poèmes dans tes livres. Et puis, pratique multidisciplinaire, donc je le disais, Hélène a travaillé avec des cinéastes, des gens en théâtre, avec des photographies. Une écrivaine a cofondé une revue de photos, c'est quand même pas mal. CV, Ciel Variable, revue qui existe toujours. Et voilà. Et donc, il y a le livre. Les écrivains écrivent des livres. La littérature est faite de livres, mais elle n'est pas faite que de cela. Elle est faite de beaucoup d'autres choses. Et l'œuvre d'Hélène Monette s'inscrit dans justement ce qui est littéraire, mais qui ne se réduit ou ne se résout pas au livre. C'est important pour toi? Question.
C'est quoi la question?
Qu'est-ce que ça t'apporte de travailler avec des cinéastes, des gens de théâtre, des musiciens, de faire ces projets-là qui, par exemple, donc Le Diable est aux vaches, qui est un spectacle à la base, dans Le Goudron et les Plumes, il y a des photos, mais c'est aussi un peu des photos qui prennent un peu la forme d'un photoroman, mais pas tout à fait. Donc de travailler un peu comme ça avec du hors le livre, avec du en dehors de l'édition, des librairies, des bibliothèques et puis tout ça, et d'aller un peu vers des gens qui n'ont pas le même langage, qui abordent pas le texte nécessairement de la même façon, et puis de faire traverser, si on veut, le livre à ces autres espaces-là de création. Ça peut être une anecdote.
Je ne sais pas, je dirais que c'est générationnel ou c'est l'époque ou c'est les coïncidences, le hasard des rencontres. Ou alors, moi, j'ai une nature artiste aussi, dans le sens que quand j'étais jeune, je voulais être professeure d'histoire de l'art et l'histoire de l'art, ça m'intéressait. Non? Ciel variable et photographe, c'est arrivé par hasard, c'est un emploi d'été après c'était dans le temps qu'il y avait encore des subventions de création d'emplois, puis une après l'autre, etc. Puis c'était l'intérêt de travailler en collectif. À la Prairie aussi, on a eu un café que les serveurs, les serveuses qui faisaient les gâteaux, qui se faisaient le service, faisaient des happenings à toutes les saisons, puis fait que c'est générationnel au sens que c'est du monde qui ont grandi dans une culture multidisciplinaire dans les années 70-80 puis qui ont poursuivi leur chemin en faisant toutes sortes de projets. Puis, oui, la photo, je sais pas, c'est ça, il y a des choses qui sont venues vers moi, tu sais, que c'est pas moi qui étais allée vraiment chercher, comme Ciel variable, c'est un hasard. Le Goudron et les Plumes, qui est un espèce de roman photo, j'avais une amie qui était photographe, donc ça dépend beaucoup du lien d'amitié d'engendrer par la suite un projet. Puis là, on avait quasiment un trio infernal, là, l'éditrice, la photographe et moi, puis on se rencontrait, puis on parlait de la vie contemporaine des femmes, puis on énumérait des thématiques. Oublie pas de parler de ça, oublie pas de parler de ça. Ils me nourrissaient de leurs réflexions, puis ça donnait quasiment des petites tablettes philosophiques. Puis moi, je suis repartie chez nous, j'écrivais des trucs, puis c'est toujours super intéressant de... dans le regard, parce que l'écriture apporte un regard sur le monde, mais d'avoir des regards complémentaires en peinture, en photo, en musique, qui sont d'autres langages extrêmement proches. C'est d'autres formes artistiques, mais ça fait un amalgame. C'est comme une bonne chanson. Tu sais plus, tu peux plus séparer la mélodie, la musique, le texte. Ça devient une bonne chanson. C'est comme... il y a quelque chose de « all together » là-dedans, excusez mon français, quelque chose de communautariste qui vient peut-être, c'est ça, de la suite, je suis donc nostalgique des années 70-80, mais bon, de collectif de création. Hein. J'ai eu beaucoup ça sur ma route, en tout cas.
Oui, c'est vrai que dans les années 70, il y en a eu beaucoup. L'infonie, c'était tout le monde. C'était des poètes, des musiciens, des peintres, des gens qui travaillaient dans des choses inclassables.
Oui, ça, c'était hot, les années 70. Ouais. 80, c'était la ça fin continue. De ça.
Ouais.
Comme le Café Centenaire à la Prairie, nous autres, c'était comme la fin des boîtes à chansons. Là. Puis ça a fait faillite, ça a pris 3 ans. Tu sais. En 84, c'était mort. C'était fini, là.
Oui, il y a un peu ça. Puis souvent, puis c'est cette idée-là, c'est-à-dire d'écrire pas juste pour le livre. Il y a peut-être ça aussi. C'est-à-dire, t'écris, les photos font partie du processus de création, comme le spectacle ou comme la musique fait partie du spectacle de création. D'écrire, si on veut, pour être entendu.
L'oralité, a priori, moi, j'ai écrit... pas pour le livre, j'écrivais des textes pour lire 3 jours après, ou j'écrivais des textes parce qu'il y avait un happening au café, ou rendu à Montréal. Moi, j'avais pas du tout l'idée que j'allais publier. Ben oui, c'est oui, parce que j'étais très ambitieuse et très énervée, là. J'avais beaucoup d'ambition quand même. Mais ça a tout commencé par des lectures publiques. En 83, Montréal... j'ai rencontré Jeannou Sani, puis j'ai couru après. Je voulais absolument faire partie des Places aux poètes, puis ça. Puis elle m'a introduite à ça, puis... fait que j'écrivais pour aller lire devant les gens. C'était... après, c'est Yves Boisvert. Ça, c'est l'anecdote, la petite histoire, là. C'est Yves Boisvert qui m'avait entendu quelques fois, dont dans l'année de la jeunesse, là, 85. L'année interminable de la jeunesse, qui m'avait entendu lire plusieurs fois, puis il a dit « J'ai parlé de toi aux Écrits des Forges, là. Ça serait peut-être le temps que tu déposes un projet de livre. » Je dis « Ah bon? OK, je vais me mettre au travail, là. Je vais essayer de faire le ménage dans mes papiers puis rassembler quelque chose. » Fait que c'est comme ça que ça a commencé, c'est l'espèce d'introduction de bois vert aux forges... Hélène Monette va vous présenter quelque chose bientôt. Là, elle est bonne, tu sais.
Ouais. Elle est bonne, ouais, parce qu'il t'avait entendu.
Ouais. Ouais, c'est ça. Mais ça vient de l'oralité, ça vient de la scène.
Ouais. Sinon, c'était pas juste... les lectures publiques ne servaient pas juste à casser des textes, à voir, ah, j'écris quelque chose, pas sûr je suis bon. Si c'est bon, je vais le lire en public pour voir si ça passe. C'était vraiment écrit avec un...
pour aller le dire.
Avec un micro... avec le micro en tête.
Oui, t'écris puis... avec le micro au lieu d'avec un stylo.
Oui, c'est ça. C'est bon. T'as le goût de nous lire quelque chose?
Oui.
Parlant de micro.
Oui, c'est ça. C'est l'histoire de la guêpe poussée par le vent, morte à tes pieds sur une galerie devant les montagnes. Et le temps long qui coule lentement, et le vent qui chante pour bercer la guêpe, avant de la faire décoller sèche et muette. Dans un lointain, incertain courant d'air. C'est un ciel pour les hirondelles, un vent pour elles. La guêpe a fait son temps chez les vivants. Tourne autour de ta tête le vent qui emporte les bourdonnements. Le 21e siècle,
Ça sent la jubilation, la désolation, la fausse représentation dans le tapis. Qu'est-ce que tu veux? Les mâchoires intègres, c'est volontaire, ça épuise. Mentir en avalant, c'est ravaler, ça craint. Les maisons sont des bunkers en janvier, des jardins en juin. Regarde, c'est là, c'est ici ma maison. Il y a un arbre devant, deux garages dans ma maison. Le chaos de la piquerie d'en face désaligne les vitres. Il y a du bruit de voitures, du roc, des pinceaux. Et les tâches ménagères sont devenues foncées avec le temps. La décoration est intéressante à tous les niveaux. Il faudrait vendre tout ça. Acheter un lac. Les gestes sont des endroits où vivre. Ça parcourt tout le devant du corps. Le proche et l'envers frémissent. Le bas du dos, le sexe et le cerveau. L'hiver est long, très loin de tout ça. À des années-lumière, les gestes. L'hiver est éternel, mais ce n'est pas un endroit où aller. C'est la mauvaise direction. Restent les cartes postales, la banlieue, tout ce qu'on veut. Le rebord du monde, la peur de l'histoire. Le plus grand espace au monde. Poser un geste. Se déplacer. Nous sommes entrés en fraude sur le marché de l'amour. Nous voulions expérimenter, nous avons amplement exagéré. À vivre des relations aux pommes vertes, des amourettes au scotch, des tendresses vitaminiques à saveur de fruits artificiels, nous nous sommes modernisés en masse et avons goûté aux choses comme si elles déterminaient les êtres. Nous voulions une petite fin du monde tout en nuances. Il s'agissait pour nous de déclarer forfait, de limiter l'apocalypse aux chants tordus des sectes, aux catastrophes environnementales, au cœur en morceaux. Les mains propres, nous voulions nous mettre à table avec des enfants normaux et des amoureux de la vie. Nous en avons trop voulu, les Istrata. Il n'y aurait de toute façon jamais assez de place, de musique. C'est le bouquet, youpi! Nous nous y sommes effeuillés la mentalité, pauvre Magnolia, pauvre, pauvre. Standardisé. Tous nos pétales tombés dans le fossé, le caniveau de l'éviction, le trou noir des cheminements, de la pertinence. De l'entreprise domptée aux fauves et aux mauvaises journées. Ils sont perdus, nos pétales, ils sont tombés, inutiles, décolorés. Que nous reste-t-il de suave? À la limite, nos bras enserrent nos côtes s'il en reste, et Pandore ramasse les fleurs qui ne poussent pas. Les restants sont inoculés, les fantômes servent. Sous la surface aplanie, normalisée, les mêmes vieilleries obsèdent. Nous nous aimons déjà d'une façon si compostée. Nous nous sommes fait assassiner sur la montagne. Nous avons dansé, perdu le voile. Nous nous sommes chicanés entre nous. Nous voulions d'un amour en couleur digestible avec un système de dégivrage automatique et des risques calculés. Nous voulions d'un homme nouveau. Nous voulions être les contemporaines des fils manqués des hommes sauvages s'ils s'en trouvaient. Nous avons pourtant déclaré faillite, rasé nos jambes, acheté des crèmes, refait le lit plusieurs fois. C'était à la mode. Ce n'est pas de notre faute. Nous avons aseptisé ce qui restait de rituel et même tout ce qui existait de ridicule. Nous nous sommes plantés. Nous avons scrappé le restant de sorcière en nous, gardé un peu de roux dans la teinture non permanente. Procure une allure si désinvolte, intrigante. Nous sommes de notre temps. Nous avons tout pour être subtils, une fois les liaisons dangereuses chez le nettoyeur. Et l'amour fou, au micro-ondes, au compte-goutte, aux trois poivres. Quelle époque, Laetitia! Un petit coulis sur ton cœur, une marge d'erreur, un coup de règle sur mes doigts, c'est pareil.
Des extraits d'Il y a quelqu'un, de Plaisir et paysage kitsch, et puis un texte de Le Gaudron et les plumes. On parlait d'oralité, on la sent quand on t'écoute, que c'est des poèmes qui se lisent, des poèmes qui s'entendent aussi. Donc cette oralité aussi dans l'écriture, puis on parlait donc de multimédia ou de mélange, de travail avec les autres arts, puis aussi un travail avec les autres genres, si on veut, de la littérature. Donc, il y a une mixité dans le travail avec le théâtre ou tout ça, ou une mixité dans le langage aussi. Donc c'est des poèmes écrits avec le micro et des poèmes écrits aussi avec la langue québécoise ou même québécoise avec des Q, avec des K, comme Raoul Duguay l'écrivait, le Québec. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est dans Lettres québécoises, Claudine Potvin qui écrivait à propos de Plaisir et paysage kitsch, que ces récits, parce que c'était des récits condensés, qui tiennent à la fois du commentaire, de la description, de la parabole, de la fable et du conte fantastique. Donc il y avait une espèce de c'est des textes, on ne sait pas trop c'est quoi, c'est des paroles, c'est des contes, et il y a ça qui est c'est une poésie orale, mais c'est une poésie qui est aussi très romanesque, en un sens très narrative. Maxime Catoli, à propos de Thérèse pour jouer et orchestre, parlait d'une poésie racontée. Ça aussi, c'est intéressant. Une poésie racontée qui se joue des codes du roman et du vers et qui n'a pas besoin de se faire dire quoi faire. Ça rime. Donc, on fait des commentaires sur ton œuvre et on fait des rimes internes. Tellement c'est poétique. Et donc, cette tension-là est intéressante aussi. Donc, c'est un paradoxe, mais c'est ça qui fait que c'est le fun. C'est une poésie orale qui est aussi une poésie romanesque, une poésie racontée.
Ça dépend des projets.
Oui, c'est vrai.
Ça dépend des projets, mais c'est sûr que c'est un peu bâtard. C'est-à-dire que c'est mix de genre. Puis c'est un peu, quand tu es mix de genre, tu es hors genre, fait que c'est comme si tu avais mauvais genre, en tout cas. Pour la littérature pure et dure et l'institution, si tu n'as pas de genre, tu as mauvais genre. Puis de là était venue la collection Les Vilains chez XYZ, où est paru Crime et chatouillement et Le Goudron et les plumes, parce que Les Vilains, ça ne voulait pas dire qu'on était méchants, ça voulait dire qu'on était hors genre, mais c'était de l'ironie. Je m'en vais où avec ça? Comme je te disais avant hier, je sais pas, je fais pas exprès comme avec des éprouvettes là, de dire je vais mettre un petit peu de commentaires sociologiques, un petit peu de poésie, un petit peu de roman. Je pense que ça dépend aussi de ce que je lis. Plaisir et paysage kitsch, j'ai vraiment lu des contes fantastiques, puis j'ai fait une recherche vraiment pour m'alimenter, comme si quand on est imprégné de ce qu'on lit, ça va automatiquement rejaillir, veut pas, dans notre plume. Fait que pour certains projets, des fois je lis des essais, je lis pour de la sociologique pour réfléchir à des questions ou des trucs philosophiques ou sociopop ou machin. Mais les contes, deux fois, Plaisir et paysage kitsch, puis Un jardin dans la nuit, j'ai poursuivi la recherche sur les contes. Ça pouvait être autant lire des contes d'Hoffmann, des contes de Maupassant très classiques, ou vraiment aller dans le conte comme quand... Les contes de Grimm, c'est proche de ce qu'on se faisait raconter quand on était petit, là. Des contes très cruels, très élevés, là. Puis je trouvais qu'il y avait une belle analogie à faire entre, mettons, des patterns de contes de... Excusez mon français. Des contes de Grimm avec le monde contemporain. Des fois, j'essaie de prendre deux champs puis d'en faire qu'un avec, mettons. Est-ce que je t'égare ou ça va, là?
Non, moi je te suis, ça va. Oui, bien, c'est une forme d'allégorie. C'est justement dans cette tension-là. C'est-à-dire que je vais faire un peu comme, je ne sais pas, Jean Ducharme, la fille de Christophe Colomb, qui fait un roman en vers. Donc, c'est de jouer aussi avec ça. C'est-à-dire, je vais faire des poèmes en prose. L'idée même de poèmes en prose est un peu dans ce... Dans ce mélange-là de choses qui sont contraires. C'est-à-dire, OK, je vais aller chercher Grimm pour parler de ce que j'ai vu de l'autre bord de la ruelle hier.
Ouais.
Il y a cette,
ouais. Mais reste, ce qui fait bâtard, mettons comme tantôt, là, nous sommes entrés en fraude sur le marché de l'amour, mettons, nous avons scrappé le restant de sorcières en nous. C'est de prendre des formes classiques, des changer pour regarder le monde maintenant, mais l'idée d'introduire de la langue populaire ou du joual ou des anglicismes, ça me sert pas dans la vie. Disons que c'est pas... c'est mal vu, mais les gens aiment... Les gens, les lecteurs, les gens qui écoutent, l'oralité, ça les rejoint, ça les branche. L'institution, moins.
Ça aussi, c'est des trucs qui, à l'oral, passent très bien. Un anglicisme, une expression, un truc, un petit bout en anglais, un petit morceau en joual, ça se dit bien dans un micro, devant un public.
Oui, mais mettons que... faut pas que je m'égare trop, là. Pour l'institution littéraire, c'est comme si c'était dépassé, comme s'il y avait eu une période joual dans les années 60-70 dans les romans et la poésie. Mm-hmm. Mais il faut plus faire ça. C'est pas bien. Il faut pas faire ça.
Ça, c'est curieux parce qu'on y revient avec Hervé Bouchard.
Hervé Bouchard.
Oui, ou Mathieu Arsenault.
Mais lui, il est très poète dans sa façon de faire du roman.
Mais c'est joual aussi. Ouais. C'est une espèce de retour du... Le retour du joual.
Le retour du refoulé.
Oui, c'est pas vrai. Hein? Le refoulé joual.
Oui. Ça doit être ça. Parce que l'histoire, ça fait souvent ça, là. Tu sais, 20 ans, c'est telle tendance, la tendance contraire, la tendance, ça fait souvent ça. Fait peut-être qu'on est dans un retour.
Un retour. Puis avec la question de la prose en poésie aussi. Là, aujourd'hui, bon. Si je pense que c'est quasiment moitié-moitié. Tu ouvres un livre de poésie, puis il y a une chance sur deux que ce soit en prose ou en vers.
Donc, c'est pas grave, docteur, si on fait de la prose poétique ou de la poésie en prose, ça se pose plus comme débat, là.
Ben, j'espère que non. J'espère que non. Ben,
comme
dépend,
là, je suis gênée quand j'ai choisi les textes. À un moment donné, je l'ai appelé ou j'ai envoyé un courriel de panique parce que je trouvais que je choisissais trop de textes en prose. Mais qu'est-ce qui fait que c'est de la poésie quand même? C'est le rythme de la langue. Les assonances, les rimes intérieures, les sujets, les images, tu sais, ça peut être un texte très ordinaire, puis tout à coup, il y a une petite touche de magie, mais c'est surtout le rythme, les images poétiques pour décrire le monde, mais ouais, c'est ouais. De la prose.
Il y avait ça dans la poésie en prose depuis le début, c'est ça, en préparant les trucs aujourd'hui, je relisais Gaspard de la Nuit, qui est considéré comme un des premiers livres de poésie en prose, d'Aloysius Bertrand, on est dans les... ça a été publié en 1842, puis ça a été écrit avant même, dans les années 30. Et puis c'était un peu ça, je relisais, c'était un peu, où est-ce que je l'ai mis, donc des textes qui tiennent à la fois du commentaire, de la description, de la parabole, de la fable et du conte fantastique. Donc il y a toujours eu ça un peu dans la poésie en prose. Dans ce sens-là, c'est très...
Donc je fais très 1842.
Oui, c'est le retour du refoulé.
C'est bien, c'est...
De 1842. Puisqu'on est dans... Dans cette époque-là, c'était une volonté aussi, dont on en reparlera tout à l'heure. Tiens, on étudie pour un petit bout de...
Si tu veux, ouais. As you wish. Oui. Alors, je rejoins mes quartiers. Je suis désolée de vous tourner le dos ici, comme ça.
Monsieur, l'amour est une chose qui fait peur. Ne savez-vous donc pas que c'est un métier difficile? Il exige un courage et une foi au-delà de l'improbable, une humanité indicible, une fraternité aveugle, de la monnaie et des bouteilles, des enfants au hasard, des regards même pas foudroyants, et des étangs de ciel et des fêtes champêtres quand le temps s'y prête. L'amour veut des parties de pêche, des patins et du chocolat noir. L'amour veut de la rondeur et de la facilité. Il est si difficile, monsieur, je ne saurais vous le décrire dans toute sa volupté. Au-delà de ses martyrs et de ses désastres hypocrites, l'amour est plein de joie et va son chemin dans la brume des premiers pas. Dans le linge pendu l'hiver sur la corde raide. Il va n'importe où et très lentement. Trop lentement, l'amour va. Comme un oursin creux rempli de sable, comme un bouton qu'on ne recoupe pas. Il est misérable, c'est une plume. Il remue au vent quand le cœur bat. Il est splendide, nettoyé par la marée. Même dans la marée haïssable, il est vague et beau et plein d'algues. C'est le silence, c'est la lumière. Une chose ordinaire comme ça. Tu es venu de tout temps t'asseoir sur cette roche, regarder la mer se briser et te croire en paix. Ici, la lumière éclate en milliards de gouttelettes contre les rochers. Ici, le turquoise du ciel à des heures impossibles exige un regard grave, comme s'il n'y avait plus que de l'incroyable et aucun absolu. Ici, tu revenais pour voir. Advenant la tempête, rien ne te faisait peur. Que la nuit dans le champ des furies se chahut des vagues. Que le bleu devenu noir et sans étoiles. Que le grondement du monde, la terreur élémentaire des forces vives qui nous rabattent le clapet pour nous rendre enfin sourds à nos problèmes infinis. Tu venais là pour te rappeler à la vie, si lumineuse hors de combat. Même s'il s'agissait de peu de jours dans l'histoire, quelques heures de sursis. De mémoire, rien d'aussi majestueux n'avait été contemplé de l'intérieur, avec ce qu'il faut de solitude pour ne pas défaillir. La beauté comme une gifle froide, pourquoi pas? Tu ne t'es pas noyé? On ne se noie pas en plein soleil avec des kilomètres de bleu au-dessus de la tête. On ne se noie pas en pleine nuit avec ces sirènes et ces bêtes qui peuplent l'esprit. De toutes tes prières, il n'en restait qu'une. Calme-moi. Alors, dans un recoin de boue, un soir, sur une rive stagnante, tu t'es mis à brailler comme seuls les fous le font lorsqu'on leur permet d'aimer qui que ce soit. Tu t'es bercé en geignant ce que personne n'aurait compris. Tu t'es regardé choir et chuter, chavirer, vider le sel, arracher les algues de ta mémoire. Il t'est resté un coquillage à trous et deux fourmis mortes dans la main. Il t'est resté quelques souffles qui rugissaient encore. Et pour quel empire? Et pour quelle légende? Les guerres finies s'étaient ensablées. Il restait une nuit de lune au bout du paysage. Il te restait une vie, à commencer par le regard, l'ébauche d'un salut, le ravissement. Tu étais seul, la tourmente passée et les années pour rien. Tu étais plus qu'un cri dans une chanson inventée. Calme-moi. Scheherazade et Marilyn. Imagine, cheikh ou shérif, arme blanche ou atomique, croissant de lune ou far west. Le diable a les munitions, la division. On est coupé en deux, les gars. On est complètement schizophrène, involontaire et cruel, atteint de graves maladies irrémissibles. Scheherazade raconte l'histoire et Marilyn joue dans le film. Papa a raison et mère courage. On tourne un western musclé en temps réel. Une mine saute, le ciel explose, au diable les vivants. Armes économiques, désarroi climatique. That's the way, sunshine of my life. Si on s'en relève, Eve, on ramassera les blessés. Ou on chantera hérétique. On flambera Mona Lisa vive dans l'air plein de feu, le cœur comme un volcan. Les moutons font partie du cauchemar, cesse de les compter, ils brûlent déjà. Scheherazade n'a plus la moindre idée, l'histoire s'emballe. On ne sait plus qui joue dans le film. On a tronqué les bobines, le scénario est mutilé. On offre un flou publicitaire à tous les abonnés. Satan se rince les dents à la limonade alcoolisée. Satan fait saigner sa belle-sœur sur la place du marché. Dieu est clean comme un électrochoc. Le reste est propre, comme un plancher de scène quand tout le monde a quitté. Gaïa s'endort dans les bras peu profonds de Lucifer. Les concierges contemplent le monde, font une prière et vont se coucher. Campette les statues, bat les masques, pieds et poings liés. Scheherazade s'est endormie et Marilyn un trou dans la gorge aussi. C-I-A-F-B-I. Ève, dit le serpent, tes enfants ont mis le feu à la maison. C'est ta faute, maman. Burning down the house. Papa est en voyage d'affaires. King Kong n'en fera pas d'autre et Raël baise avec des clones. Les filles. On ne l'a pas dans la vie. Mère, mère, pourquoi nous sommes-nous abandonnés jusqu'à la guerre, scène vide et plancher rouge? Aux obsèques de Scheherazade, on affichera des posters de Marilyn devant Dieu et les hommes. Quelle justice immuable! Imagine, jusque dans le port d'Amsterdam. N'importe quoi, les bonnes femmes. Minifée qui milite pour la paix. Cendrillon sur les anxiolytiques. Et la guerre, man. L'amour, mon garçon. La vie, mon ami.
De retour, donc, en 1830, au temps de Scheherazade, de ce côté-ci de la table. pour dire, ben, c'est ça, on continue. Et ce texte-là allait tout à fait dans ce sens-là de l'allégorie entre Marilyn, Scheherazade.
Pour la comment parler de la guerre d'Irak dans un poème.
Ouais.
C'est ça. Je me suis demandé en arrivant si maintenant je serais capable de transposer tout le temps des faits majeurs de l'histoire mondiale et sociale. Je pense que je serais plus capable de faire ça, je sais pas. Il y avait comme une urgence. Ça fait pas si longtemps non plus, là. Mais le fait de transposer en allégorie des événements, là. Mais c'était pas là que tu t'en allais.
Oui, c'était là que je m'en allais. Je m'en vais où tu veux. c'est ça. Que faire avec l'ordinaire? C'est un peu ça. Ouais, ben, c'est pas ordinaire. C'est jamais ordinaire. C'est ça qui est aussi. C'est là où. Moi,
c'est une bonne question. Que faire avec l'ordinaire?
Mais c'est que c'est pas ordinaire. C'est-à-dire que c'est le quotidien, c'est le banal, aussi. C'est ce qu'il y a à la télévision, c'est ce qu'il y a de l'autre côté de la rue. Mais c'est pas ordinaire. Il y a ça qui est fascinant. Puis on l'entendait dans les deux extraits que tu viens de lire, cette espèce d'ordinaire d'être assis quelque part et puis d'essayer de se calmer un peu le pompon. Et voilà. Hein, on, je suppose qu'on s'en va, mais on y va ensemble avec nos pompons. Et donc, que ce soit cet ordinaire-là que d'être assis ou que ce soit cette autre forme d'ordinaire-là qui n'est pas non plus vraiment ordinaire, qui est la guerre en Irak. Et c'est là où je reviens en 1832, qui est avec on ne le dit pas assez, on a l'histoire littéraire amnésique un peu ici, ce profond désir d'écrire l'ordinaire au Québec. On essaye, puis on cherche des moyens, que ce soit par l'allégorie, que ce soit par d'autres façons, et il y a ça vraiment depuis les débuts. C'est Michel Bibeau qui, dans sa satire contre l'avarice en 1832, voulait dire aux humains leur tort et leur travers. On est quasiment chez Hélène Monette. Il voulait dire en vers dur de dure vérité. Ça aussi, c'est enfin on y arrive. Hein. Dire en vers dur de dure vérité. De dure vérité ordinaire.
Est-ce qu'il y a quelque chose de moraliste là-dedans?
Ben, je sais pas. Philippe Aubert de Gaspé, lui, voulait ne pas faire de belles phrases fleuries, mais plutôt peindre des hommes tels qu'ils se rencontrent dans la vie usuelle. Ça en est dans... Mais c'est pas ordinaire.
Il y a quelque chose de moral là-dedans. Mais moi, ça me gêne pas. C'est que c'est devenu un lieu commun de dire « Ben là, fais-moi pas moral. » Ou tu sais, comme si tout... Il y a une confusion entre moral, moralisme. Il y a une confusion. Dans le long texte que je vous lirai pas parce qu'il dure 15 minutes, qui s'appelle « La dérision », à un moment donné, ça dit « La morale, elle ne nous perdra pas. Elle est déjà perdue. » Il y a peut-être quelque chose de... Je suis en train de me demander s'il y a quelque chose de moral, mais que j'essaie de magnifier ça, que c'est pas si pire que ça. Que c'est une façon de vouloir sauvegarder quelque chose d'humain, d'humaniste, de trouver un sens quand il n'y en a plus pantoute. Excusez. Plus du tout, là.
Le conte nous ramène à la morale aussi.
C'est vrai, il y a ça dans les contes. Tout le temps, pas mal.
C'est ça que ça sert.
On s'en va où, là?
Je sais pas. On peut changer de direction. Mais c'est une morale qui est ironique aussi.
Peut-être. Oui, ouais. À l'humour, ça sauve tout. Ben, ouais.
Les contes, c'est drôle, souvent.
Mais l'humour, il faut toujours faire attention. Ça, il y a un dosage. L'humour, l'ironie, le sarcasme, le cynisme. Fait qu'il faut doser. C'est pas du tout la même chose. Il y a certaines questions, tu peux pas être sarcastique ou cynique. Tu peux.
Avec la guerre en Irak, tu peux être quoi?
C'est pas humoristique, ce texte-là. C'est névrotique et psychédélique.
Ça, c'est dit avec un sourire, là, pour ceux qui vont réécouter l'entretien plus tard, là.
Oui, l'humour, je ne sais pas à quel point Est-ce que je me force pour injecter de l'humour dans mes textes ou ça vient tout seul? Comme je te disais avant hier, ouais. Quand on essayait de préparer où c'est qu'on s'en allait, je me dis que ça vient... C'est lié pour moi, l'humour, au parler populaire. Ça, je pensais à mon père, même à ma mère, je pensais à mon milieu de vie. Moi, mes parents sont nés dans les années 20, début 20, là, 1921-23. C'est quand même une autre culture tellement... puis il y avait un parler populaire très coloré, puis il y avait beaucoup d'humour, beaucoup d'expressions familières que moi je trouvais drôle en tout cas. Puis on dirait, c'est resté, puis je m'en vais où avec ça? J'essaie de faire un travail, pas universitaire, mais qui a un rapport entre l'humour et le parler populaire, ouais. La couleur. L'humour, ça va donner de la couleur à un texte, ça va donner une légèreté, une direction. La langue aussi, puis moi, sont liées, en tout cas. Si je fais l'analyse de mon œuvre pour la présenter à des étudiants ou quoi, quand je parlais de mon coffre à outils, qu'est-ce qu'il y a dans mon coffre à outils? Ben, il y a le parler populaire familier, puis il y a l'humour.
Et qui vont ensemble.
Et là, ça fait 2-3 jours que je me dis qu'ils vont ensemble.
Ouais. Il n'y a pas grand-chose qui ne va pas ensemble dans...
Oui. Les niveaux de langue, ça peut être dangereux, qui ne va pas ensemble. Tu sais, quand on parlait de... Comment qu'on fait pour mettre de l'argot, du québécois, des anglicismes, du français standard, du français littéraire dans un texte d'une page sans que ça jure. Je ne sais pas si ça marche tout le temps, moi.
Ben, ça marche. Ça arrive que ça marche, en tout cas.
Ouais.
Ouais. Il n'y a pas beaucoup qui... Ben, c'est pas facile. C'est peut-être pour ça que les gens n'osent pas trop le faire non plus. Et puis, c'est vrai.
Mais c'est pour ça qu'il y en a qui disent qu'Hélène Monnette, elle ne sait pas écrire. Parce que... parce qu'il y a une mixité très élastique. C'est très permissif.
Ouais, c'est parce que tu sais écrire dans plusieurs registres de langue. Ouais.
Mais peut-être que ça ne marche pas. Peut-être que ça marche, je ne sais pas.
Ben, je pense que oui, c'est fascinant.
C'est toi le
critique. Puis on te lit, puis qu'il y a des gens qui viennent t'écouter et puis qui aiment ça, ce que tu fais. C'est parce que ça marche pas pire.
Oui, c'est ça, je suis une fan de thérapie de groupe. Excusez.
Non, mais on se questionne. Mais c'est pas facile non plus, c'est ça, justement, parler de son écriture, puis ça, se faire poser des questions, puis on se pose des questions encore pire que les questions qu'on se fait poser pour essayer de...
Mais là, c'est moi qui ramène l'histoire des niveaux de langue. Comment t'appelles ça, toi, l'écriture droite, pure et très respect de la langue française? Comment t'appelles ça?
C'est plate.
Non, tu disais l'écriture cérébrale.
Conventionnel ou...
Mais pourtant, c'est très cérébral. Moi, il y a quelque chose de... Ouais. Il y a toujours très... Pas juste moral, mais réflexif. Il faut réfléchir. Non, mais oui. Tu sais...
Dans le sens de refléter, puis dans le sens de se poser des questions.
Ouais. Puis peut-être que... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prose, même si c'est des proses poétiques. Est-ce qu'on a de la place pour réfléchir dans un poème? Fait qu'à un moment donné, il n'y a pas assez de place, ça déborde. Ça devient une prose poétique où tu peux t'as oui. plus de place pour réfléchir, faire des images ou je sais pas.
Mais c'est une question de souffle aussi. Parce que le
souffle.
Le vers, ça coupe. Quand t'es en prose, ça se...
Ça se déploie.
Ouais,
ça...
c'est ça. C'est plus souple, peut-être aussi. C'est la question de la poésie en prose, c'est ça aussi. C'est un peu pour assouplir le moule du poème ou l'espèce d'aspect un peu redondant du retour à la ligne incessant. Là, on part. Puis ça arrête quand c'est fini.
Okay.
Il y a des gens qui disent justement que c'est pas poétique, ou c'est peu poétique, ou c'est moins poétique, justement, d'aller... c'est vrai que tu joues un peu avec le feu, parce que tu vas du côté du langage familier, populaire, et de toute cette richesse d'épaisseur, de niveau de langue. C'est les ressources de la langue qui sont là. Pourquoi qu'on s'en priverait?
C'est comme des couleurs, tu sais.
Ben oui.
C'est comme essayer différentes couleurs.
Ouais, l'orange, c'est pas bien beau. Hein. ça dépend des
goûts.
Ça
dépend du reste du tableau.
Puis donc, cette avenue-là dans le langage, cette avenue-là aussi dans la prose, qui vont peut-être ensemble, mais qui est vrai qui s'éloignent de l'idée qu'on se fait, à tort ou à raison, de ce qu'est ou de ce que devrait être la poésie. Oui,
ouais, ça.
Chance, t'es là. Qu'est-ce qu'on a ensuite?
Qu'est-ce qu'on a ensuite au menu?
Au menu.
Ça marchera pas, ça. Ça va être trop. Ça va-tu marcher? On est rendu là.
Ouais, ouais.
Je le coupe-tu?
Okay, ouais, peut-être, ouais. OK.
OK. Bon, ben là, c'est de la prose. Mais c'est poétique. Pourquoi?
T'as pas besoin de te justifier.
J'en sais rien.
Si tu le dis, on
cité. Cité avec un S, accent aigu S. Je récite, oui. Quand les coules envahirent les cités, le monde entier fut débordé d'ados illégitimes. Les grands s'étant trompés, ayant enflammé le risque d'étraquer la beauté, il ne restait plus que nuages gris pseudo-climatiques terrifiants. Sans dessus-dessous, la vie vivotait. Les coules firent du vacarme et beaucoup de sourires et ont cru que tout était rentré dans l'ordre. Mais il n'y avait rien de rentré, ni le foin, ni l'orge, ni la plus mince, ni la plus folle idée. La fraîcheur avait tout balayé de son souffle pratique. Les âmes, sous l'effet des dépressions atmosphériques, n'avaient plus à bouger, et les dissidents s'envolaient. Des années durant, les rebelles se sont éclipsés quand les coules ont envahi les cités. Souvent, il s'agissait d'aimer ou de rendre l'âme, et les corps étaient partagés, entre la démence et l'affolement, entre l'exaltation et la gravité. La douleur étant chose facile, plus personne ne se regardait dans les yeux. Et les corneilles prenaient du temps à passer. Les apparences étaient perforées, et quand la vie perçait, elle abandonnait, on n'aurait pas su dire comment cela se réalisait, la réalité était si grosse, les yeux si fractionnés, et la faible lumière si endormante, finalement, au bout du tunnel. Dépanneur. En ce temps-là, les paranoïaques avaient des dépanneurs. Ils vendaient des revues spécialisées en massacres et tout l'attirail des loteries, du pain dénaturé et des conserves périmées, des cigarettes ultra douces et des friandises qui donnaient des maladies de cœur, toutes sortes de maladies. Il y avait beaucoup de gens mal rasés, des soulards, des démons. Il y avait potentiellement plus d'agressifs que de voleurs entre les deux rangées d'étagères et les réfrigérateurs, de tous bords, tous côtés, sous les néons, aux dépanneurs. Mais il y avait aussi passablement de brigands, de schnappants et de criminels de toutes sortes qui passaient dans ce haut lieu de la déconfiture mondiale. Beaucoup de sales types et de pauvres mecs, beaucoup d'alcooliques, le mascara coulé. Il y avait eu la chute des dépanneurs, le crash. Les autorités avaient plus ou moins annoncé « ça y est, votre quartier ferme ». Comme on avait auparavant fermé des villes, on fermait des quartiers. Les dépanneurs étaient devenus les dernières institutions des quartiers rebelles. Les gens étaient vraiment abîmés. Ils achetaient encore des billets de loto à l'appel, bien qu'il n'y ait plus aucun gros lot, plus aucun trésor. C'était la dèche à l'époque paranoïaque. Chacun rêvait d'être beau et riche et tout le monde était pauvre et moche. Du commerçant au livreur, du client au voleur, de la mère du bébé qui pleurait au fournisseur de chips. Chacun rêvait de se calmer, mais personne ne se calmait. On payait de sa poche, de sa peau et de sa raison pour être inquiet. L'angoisse avait l'effet physique d'une bombe. L'affectivité en désuétude émettait des radiations dangereuses pendant toute la durée du contact, que ce soit entre commerçants et chapardeurs, pères et mères, escrocs et fraudeurs. Chacun rêvait de se calmer, mais personne ne se calmait. Les quartiers abîmés étaient sous haute tension, mais qui le savait?
Ouais, qui?
C'est pas moi qui...
C'est vrai, c'est pas toi, c'est le sujet du texte.
Je le fais-tu, lui?
Oui, non, c'est... Ben oui, on va... Regarde-toi.
Oui, mais je l'ai...
Ouais, il y en a beaucoup, OK.
Il y en a beaucoup. Puis là, il y a calme. Quand je choisis des textes après, j'ai tellement analysé les choix de textes que je ferais. Là, il y a le mot calme qui revient en plein. Puis, je veux pas qu'il y ait trop de violence, là. Est-ce que ça va? Est-ce que vous êtes trop traumatisé? Ça va, tout le monde? Bon, on va le faire d'abord. Le 92, hein? Ça fait un petit bout de temps, là. Violaine, je suis désolée, t'as tous entendu l'autre fois les textes. Heure de pointe. Il y a 25 Marc Lépine par wagon le soir à 5 heures. Et ils ne savent pas qui ils sont. Mais forcément, ils savent où ils vont. Mais dans le fond, nous toutes hagardes, les yeux ronds, nous faisons de chaque panne, de chaque arrêt suspect, de chaque incident technique, un accident toujours probable, toujours trop évident, même s'il n'arrive jamais. Nous dévisageons les gars louches durs à cuire qui prennent trois bancs et un poteau arrogant. Alors que des messieurs très bien comptables dévisagent notre tenue vestimentaire au-dessous de la norme, nos accents de pauvreté et notre tête populaire. Négligés, nous le sommes de bien des façons, mais ni un regard de travers ni un croc en jambe ne nous distraira de notre petite mission communautaire, aussi absurde qu'éreintante. Le ridicule ne tue pas, nous en sommes les preuves vivantes. C'est bien pour dire comment la justice prend tous les airs et tous les visages qui se font de l'ombre les uns les autres le soir, quand tout craque à l'heure dite. Le désœuvrement, c'est la fin du monde étalée dans les cernes d'un visage forcément humain, l'équivoque de la pauvreté et de la misère. Quand l'intérieur camoufle des bruits comme un long cri que l'on n'entend pas à l'extérieur en état de crise, forcément. Nous tous, une foule, spectre de valeurs éprouvantes, fenêtres closes dans un autobus à 5 heures, à 8h30, à 9h moins 5. Quand la pluie acide égratigne la restop, la vitre où l'on devine la figure confortable du propriétaire de voiture payée. Quand toutes les bottes yellow de la file d'attente sont dans la slush, sans équivoque, n'ayons pas peur des mots qui salissent les bottes. C'est merveilleux d'être quelqu'un et d'y croire. Le problème, c'est de recharger les batteries d'une telle croyance. Comment croire une telle aberration plus longtemps qu'un petit moment, un blanc, un répit mental entre deux ascenseurs, trois PDE, quatre cafés, et une foule patibulaire où quelques chatons se sont fait les griffes sur les paletots élimés des personnages vacants, les face à claques de service qui ne sont pas payés cher pour leur permanence au coin de la rue. Nous sommes de retour sur Terre chaque fois qu'un regard comme ça nous transperce. Le désenchantement, c'est la fin du monde au coin de la rue, dans une boutique bien rangée, avec des vendeurs compétents, un service après-vente sans pareil, où l'on met en vente des gadgets semi-automatiques qui coûtent les yeux de la tête et le reste à louette.
Ben, t'as bien fait de lire. C'était bien.
Oui, mais il y a la grève étudiante aussi, en tout cas.
Ah oui, il y a un des... Ouais, un des
je peux le raconter. C'est dans Plaisir et paysage kitsch, il y a un 197, c'est pour montrer à quel point je suis visionnaire. Non? Il y a un texte qui s'appelle « Parc », c'est la blague, la joke. C'est... Je veux pas le lire parce que c'est comme si les étudiants ils perdent leur contestation dans... C'est un texte d'anticipation. Puis là, les cours sont rendus à 484 pour une heure et quart. Puis il n'y a plus de place. Puis, fait que il n'y a plus de place, il n'y a plus de locaux disponibles. Fait que le cours se donne dans un parc. Puis le prof, il y a un mégaphone pour donner son cours. J'aurais été mieux de le lire que de le raconter. Ça ne marche pas pantoute. Puis, fait que c'est comme un texte d'anticipation. Fait que le prof, il est dehors dans un parc, il donne son cours qui était raccourci au mégaphone. Puis là, les étudiants qui sont super endettés, ils espèrent qu'il va se mettre à neiger pour que le cours soit annulé. On arrête ça là.
Oui, dans un terrain vague, c'est ça. Il y a une réflexion dans ce texte-là aussi sur la restructuration.
Chacun doit faire sa part.
Oui, c'est ça. L'expression « chacun doit faire sa part » a d'ailleurs été décrétée hymne national récemment. Et les autorités ont profité de l'occasion pour distribuer gratuitement des autocollants arborant ce slogan dans tous les établissements d'enseignement.
Donc, ça date pas
d'hier. Page 192.
Ça date pas d'hier, leur affaire de dire chacun doit faire sa part. Là, c'est du réchauffé pas mal. Là.
Fait que donc, ça prend des vigies, ça prend des gens pour témoigner de tout ça. Ouais.
Oui, oui, mais témoigner.
Ça, c'est le rôle. Parce qu'on revient un peu au
rôle
moral.
Non, mais
là,
on va
se lancer
en philosophie. Ouais, l'indignation, OK, mais qu'est-ce que ça fait? Ça fait. Pas qu'il faut donner tous des terroristes, c'est pas ça. Je suis pas en train de partir un... Ben, peut-être, là, mais... Non.
L'écriture, ça, je repense à Straram qui parle de Vanier.
L'écriture terroriste de Denis Vanier.
Non, mais l'écriture, c'est pas un moyen d'action. T'es pas en première ligne, t'es pas brancardier en train de soigner des blessés. Tu sais, t'es pas dans une... C'est que...
Tu te fais pas poivrer dans ton bureau, hein? Quand t'écris.
Ce que je veux dire, c'est un malaise, ça, des artistes, écrivains, artistes, non. Quand ils se font dire vous êtes engagés, tu comprends ce que je veux dire?
Oui.
Je suis pas Médecins sans frontières, puis je résous pas les problèmes sociaux et le mal des autres.
Non.
Mais témoigner de l'époque,
ouais.
C'est. Est-ce que ça sert à quelque chose, docteur?
Mais je pense que c'est à ça que ça sert, la poésie puis la littérature. Non, témoigner de ce qui se passe, mais de témoigner de la sensibilité d'une époque ou de la révolte ou de la colère d'une époque. De dire, on est en crise à cause de ça, où il se passe ça, là, et comment ça se fait. Et donc, de là, on revient un peu à l'idée de l'allégorie aussi. Donc, c'est toujours... C'est jamais juste dire, un tel a fait ça, ou il y a eu tant... C'est pas du reportage... C'est toujours un peu de l'allégorie ou comme cette image de la fin du monde au coin de la rue. Donc, le coin de la rue permet de dire la fin du monde, puis l'idée de la fin du monde permet aussi d'expliquer qu'est-ce qui se passe au coin de la rue. C'est pas mal. C'est pas mal. Hein? C'est pour ça aussi que c'est pas simple de parler de l'écriture des livres d'Hélène Monette, parce qu'on... On voudrait dire quelque chose, puis on se rend compte que il faudrait nuancer. C'est peut-être pas juste, c'est pas tous les textes, c'est pas tous les livres qui sont comme ça. On parle d'ironie, on parle de sarcasme ou de cette idée de dénoncer ou d'engagement, mais c'est pas. Et donc c'est ça, il faut faire. C'est quand même. Oui, c'est tout un monde.
Je me suis fait reprocher beaucoup, là. Pas encore elle là, qui vient parler du monde, des problèmes du monde actuel. On a assez de lire le journal.
Ouais.
C'est comme si tu rabâchais qu'est-ce qui est déjà à pleine page ou à pleine onde. Puis, je sais pas si le message a porté à force à travers les décennies, mais comme là où était-il, ou alors c'est un livre de maturité, entre guillemets, en italique, je ne sais pas quoi, que l'observation du monde dans le dernier, là où était ici, est plus... est pas intériorisée, l'observation du monde. Est plus comme un peintre, comme quelqu'un qui ferait du dessin, d'observer le monde. Vraiment, plus... Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'empathie ou de compassion, mais tu vas le mettre comme quelqu'un qui fait du dessin ou de la peinture. Tu ne le vois pas tout l'intérioriser pour... tu sais, comme... Chez Razad et Marilyn, il y a quelque chose de névrotique, hystérique, qui fait que tu intériorises la guerre pour la rendre dans un message, je ne sais pas quoi. Mais que là où tu es ici, je... Bref, autrement dit, je ne sais plus où je m'en vais. Pas juste maintenant, dans l'écriture. Mais je pense que tous les écrivains sont comme ça. Là. D'un projet à l'autre, on ne sait jamais où est-ce qu'on s'en va. Ouais. Moi, je ne déborde pas de projet.
Et souvent, on en parlait ça aussi avant-hier. C'est dit beaucoup de choses avant-hier, finalement.
On aurait dû enregistrer.
Ben oui, c'est ça, faire jouer à cassette.
Ben oui, tu
reviendrais. Hein. moi aussi, je me suis perdu.
C'est moi qui t'ai perdu. Je t'ai amené en dessin et en peinture.
Non, c'est ça que tu écrivais souvent un livre pour pas te défaire celui qui venait, mais un peu réajuster le tir, faire mentir. Non, c'est pas non plus le bon
compléter.
Mot.
Compléter.
C'est pas facile.
Non, mais ça, c'est un lieu commun qui m'appartient pas en propre. Ouais. C'est que souvent, les écrivains disent ça, que... Ouais. T'es obligé de faire un autre livre parce que t'es insatisfait ou t'as un malaise avec lui qui vient de paraître. Là. Tu le trouves incomplet, maladroit, gauche, il manque ci, il manque ça. Ce qui t'incite, ben, ce qui t'oblige à en faire un autre. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi les bourses qui obligent à faire des livres. Il y a aussi... à force, moi... Je trouve que ça, c'est une affaire que on n'avait pas parlé, je suis désolée. Ben, la production, l'hyperproduction, la production tue la création. Il faut faire attention. Si tu deviens, mettons, écrivain professionnel, tu es tenu de produire. Là, le monde, ça fait, mettons, 2-3 ans que tu n'as pas publié. Hey, ça fait longtemps que tu n'as pas publié. Ben, excuse. Tu sais, j'en ai un qui a été publié, ça fait 2 ans. Tu sais.
Il y a eu le temps de le lire. Là.
Ce que je veux dire, c'est que si tu revais les habits, pas du fonctionnaire de l'écriture, mais quasiment, là, c'est-à-dire que tu es tenu de produire puis que tu as ton attaché caisse, là, de ton attaché cas, tu es tenu de produire, c'est très dangereux que ça tue la... je ne vais pas me lancer en mystique par-dessus à la philopop, là, mais ça tue la créativité...
T'allais dire la flamme.
La flamme, j'allais dire. Sais-tu la flamme, l'élan de création premier, là? La gratuité du geste. Écrire juste parce que ça fait du bien, écrire juste parce que tu as vu quelque chose de beau dans la journée, sans tout le temps penser à transformer un texte pour le rendre en format public, dans un format livre ou un format lecture. Et ça c'est compliqué de garder un espace de vie entre les deux où on est libre. J'essaie de faire une dialectique qui n'existe pas, là, je me suis mélangée de bord. En tout cas, tu comprends ce que je veux dire?
Oui. Non, mais c'est-à-dire, oui, ben, souvent, il y a des choses qui nous font écrire. Il faut qu'il y ait une nécessité...
Faut qu'il y ait une nécessité. Ça fait.
Ouais, t'es obligé d'être. Il faut.
Mais c'est
faut.
Pas vrai quand qu'il faut. Moi, je trouve que ça interrompt la créativité, la création. Quand il y a trop d'injonctions, c'est comme si tu travailles avec l'éditeur au niveau allégorique, là. L'éditeur, le monde entier, ce que le monde y veut que t'écrives en arrière de toi, t'arrives. Tu bloques. C'est pas possible. Les injonctions sociales sont très mauvaises pour la créativité.
Ouais, la pression de produire aussi. Ben on
la pression de produire.
C'est ça. On est dans
Parce
ce monde-là.
Que,
de...
Vu qu'on est dans un monde d'hyperproduction, ça a beau qu'on est en restructuration puis tout est supposé être amaigri, on est quand même dans un monde d'hyperproduction. On est dans un monde industriel, post-industriel, hyperproductif. L'industrie du livre, c'est une industrie aussi, puis c'est les mêmes schémas. Là.
L'écrivain doit faire sa juste à part, finalement.
Ouais, mettons. OK. Bref, c'est un sujet facile. Très compliqué. Ça aurait pu être juste ça, mais...
Oui, c'est vrai. Ben, c'est ça, il y a plusieurs choses. On aurait pu... faudrait faire une deuxième partie, là, après-demain, finalement.
Dans 4 ans, à peu près.
Oui, c'est ça, peut-être. Le temps que tu sortes au moins un livre. Mais tu, non, mais tu parles de pression. Tu as quand même, dans les 25 dernières années, oui. Tu en as publié 13. C'est quand même pas pire.
C'est énorme. C'est fou, mais là. Ça, c'est la vingtaine puis la trentaine. Là. C'est que ça arrêtait pas. Tu sais, c'était comme tu transposes ta vie à mesure en écriture tout le temps. Tu sais, c'était comme l'espèce de fougue de la vingtaine, de la trentaine. Ça lâchait pas. Mais tout ce que je vivais, tout ce qui se passait, tous les événements sociaux, puis tout ce que je vivais, c'était tout le temps transposé à mesure en écriture, en poésie. Mais ça épuise, ça. À un moment donné, le puits est vide. Tu peux pas vivre de même tout le temps. Là, je suis rendue que une scène dans la vie quotidienne, là, comme un petit bébé qui passe son chapeau, j'y ramasse, c'est un poème en soi. Tu sais, ça a plus de valeur de vivre un petit moment de poésie que de tout le transposer tout le temps en littérature, en écrit, en poésie.
Vous allez le symboliser, ouais, à mesure. Ben, tes livres aussi sont plus... Enfin,
j'ai beaucoup produit.
C'est plus des plaquettes non plus. C'est-à-dire peut-être que dans les années... Depuis 2000, ça s'est espacé un peu, mais c'est des livres... c'est des 2 pour 1, les 3 pour 1, là, par
ouais.
rapport à...
Oui. Oui, moi, je veux que le client soit satisfait. Des fois, je mets 2 livres dans un. Oui, Plaisir et paysage kitsch, c'est 2 livres dans un.
Ouais.
La blague de « Il y a quelqu'un », c'était pour « OK, vous en voulez, vous allez en avoir ». Mais ça, c'est un échec, ce livre-là, dans le sens que j'ai mis des choses très faibles à côté des poèmes très forts. Mais c'était le but du jeu. Mais c'est un catalogue de poèmes, c'est 300 pages.
Ouais, ouais.
C'était l'idée de faire un catalogue. C'est un catalogue.
Mais c'est généreux. Il y a ça aussi, je pense qu'il faut peut-être le mentionner avant d'entendre un dernier bloc de lecture, cette générosité-là. De générosité puis l'humanité qu'il y a dans cette écriture-là. Générosité fragile.
Contente de vous l'entendre dire.
Oui. T'es d'accord avec ça? La générosité fragile de l'œuvre d'Hélène Monette, ça, c'est un bon titre d'article.
Ça présente bien le...
Ça présente bien, hein? Parfait. Donc ce prochain bloc de lecture s'intitule...
Tu peux y aller quand tu veux. Bon, là, je vais essayer d'être fine. Je vais parler de ma fille et de ma sœur. Qui veut mettre la table? T'apprendras, ma petite fille, avec ce que tu as vu et senti, à partir de ce que tu as aimé, connu et reconnu, touché et retouché. Dans ton regard déjà, d'immenses espaces verts s'étirent à la lumière des joies. Je t'ai toujours dit que je t'avais mise au monde pour te rencontrer, pour te connaître. Mais peut-être suis-je une autre de ces égoïstes qui veulent créer, procréer des beautés pour ne pas devenir folle, ne pas virer fou. Les passions obligatoires, les plus belles affaires au monde, comme de l'eau vive, peut-on penser? Ça coule musique, colline, océan, chanson et beaucoup d'animaux, des chats et des dauphins pour toi. Le bonheur partagé, OK. Mais la liberté, c'est quoi? C'est de prendre soin de toi, de te garder en vie, d'être l'être qui est toi, cheminante et limpide, de n'emprisonner personne et de discerner les pièges dans l'ombre ou les brillants, t'en tenir loin, comme un oiseau à distance, vigilante comme un arbre résistant. T'apprendras, ma petite fille, oui, tu sais ça. L'amour fait partie de ta vie et il vient de toi. Nous sommes sauvés. Enfin, jusqu'ici, tout va presque. Et l'amour t'apprendra, ma petite fille, ce que tu veux savoir des autres et ce que tu ne veux pas. Ce qui vibre et luit à cœur de jour au fond de l'existence, dans l'âme de cette bouleversante espèce,
ce monde entier comme un cactus. Le reste, les fleurs de février, l'éternité, on l'invente quand ça nous prend, si ça nous chante. Une amie m'a déjà dit que je t'ai appris à penser. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je t'aurais au moins montré qu'on peut s'en sortir sur cette terre. De toute façon, mon petit poisson, il y a une fin à tout et ce n'est pas plus grave. Mais ce sont les débuts, les commencements, la compassion et la patience entre les crises d'honneur, les amorces qui sont belles. Tout ce qui se poursuit ordinaire, calmement, tenace et rendu là extraordinaire. Être grondé, comme tu dis, ça me donne l'idée d'une dignité dans l'amour. Qu'est-ce que t'en penses, Tilou? La dignité, ma belle, pour l'amour. Que cette idée soit surannée et ses amours, plus souvent qu'autrement, étouffantes, arrive une saison où les tilleuls se balancent, fleurs au vent. Que cet amour soit aux trois quarts dingue. La dignité de l'amour donne des ailes. C'est aussi ça un peu la liberté, mon oiseau. Thérèse pour jouer à orchestre. Thérèse Terreur, ma chère délicate, aussi limpide et nébuleuse qu'une parabole, soigneuse comme une soignante de guerre, Terznichka Karénine, sous de jolies lanternes toujours allumées au toit du monde. Salut, c'est moi! Que l'on s'amuse enfin, que l'on puisse jouer avec nos voix, dans ce monde de brusquerie consensuelle vertueuse, comme un coulis de neige sale sur nos manteaux fanés. Tandis que les barbares ajustent leur miroir sans voir l'angle mort, la joie passe tel un ange de chair et de sang, invisible et alerte, rêvant. Laissez passer les petites humiliées au cœur en dentelle de carton bon marché. Laissez-nous étinceler de nos plaisirs clownesques, parler entre nous un patois curieux, sans trop d'interdits, libre de chantonner n'importe quand, sourire aussi. Nous les désolés, planète montgolfière, étoile naine, coincée entre les géantes rouges et toutes les saintes dans un coin sombre du firmament. Le feu dans les yeux, des éclairs dans les cheveux, comète abasourdie, hardie dans leur lenteur, frôlant l'inexistence dans la cour des grands ébats. Le cosmos roulant ses galaxies fiévreuses dans l'infini et les fins du monde en perspective, nous vivons tout ça. Éteignons les flammes qui nous dévorent, mais pas toutes, car toi, tu le sais, celui qui porte le feu, c'est l'ange. Nous, étoiles boueuses et resplendissantes de vie, les sœurs, les seules de la tribu fragile lumière, au bout du rêve, coincées dans la grande centrifugeuse, le monde armé de bonheur broyant les sens. Humainement, nous sommes ici déambulants, dans une rue du village, ou alors parlant au canard au bord de l'étang. Nous nous rejoignons au complexe. Prenons un verre avec Vivi, un 2 janvier à la place Ville-Marie. L'immeuble penche dans la nuit parfaite des flocons. Nous sommes là, magnétique et stellaire, une bonne chaleur dans le corps, dans la clarté psychanalytique, romantique, jusqu'à rouler dans le carrosse du rêve. Nous, les enchantées de l'univers, les filles aux bougies de service dans les fêtes, les timides isolés, humanisés jusqu'au fou rire. Nous sommes de la tribu ventre à terre. Ainsi pourvus, nous allons lentement au but, incertaine parfois que ce chemin soit la joie. C'est comme si l'infini était à tout bout de champ à court d'étoiles. Thérèse, ô maître d'humilité, de fraternité modérée et d'une saisissante liberté sur la terre comme au ciel. Alors que je traverse ce fusée sans pilote, le néant amorphe, tu voles raccommoder les cœurs désolés en rongeant tes forces jusqu'à ce qu'il y en ait peu, mais encore tellement de lumière. Tu as l'éternité dans les ailes et pourtant partout s'étale l'étendue stoïque de la mortalité mortifère mortelle. Un territoire précis, balisé, accidenté. Glisse les nappes de brume comme des rêves soyeux, effilochés dans tes grands yeux. Le froissement de ton cœur vient friper les traits de ta moue angoissée frémissante. Avec tes grandes ailes, trop lourdes pour ta charpente, frêle, tu marches dans un silence de mort. C'est avec effort que tu t'envoles. L'empreinte de ta main réchauffe encore l'épaule. Ta douceur, le feu de l'ange, reste avec moi. Pas juste méchante.
Non, pas du tout. Peut-être qu'on peut ouvrir et puis si des gens ont des questions et puis ont envie de discuter un peu avant qu'on aille fumer une cigarette.
Je vais peut-être réactions. Juste dire trois mots, puis peut-être si Hélène Monnet a envie de répondre sur un de ces trois mots-là ou les trois en même temps, les mots sororité, filiation et transmission. Qu'est-ce que ça représente pour toi?
C'est beau que tu parles de ça parce que j'ai coupé le choix de texte parce que j'avais choisi trop de textes. Puis il y avait un texte qui est dédié à ma nièce Julie qui porte sur la filiation. Puis je voulais le mettre dans le dernier bloc. Là. Parce que depuis, avant hier, depuis qu'on a commencé à parler de se rencontrer puis de choisir des thèmes de discussion, tout ça, il y avait quelque chose dans la filiation. J'en ai parlé où je me suis mis à réfléchir à ça, la filiation. Oui. Autant à cause de la langue populaire, les niveaux de langue. Là, j'ai pensé à mon père, je pensais à tout ça. La culture de monde née dans les années 20. Là. Puis autant, pas juste ma fille, ma soeur, mais aussi mon père, mais comme la filiation à travers les époques. Tu sais, comme le texte que j'ai pas lu, que je voulais lire, ça parlait, autrement dit, de la filiation reculée au début de l'humanité, Néandertal, Homo sapiens, ce machin, jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup le télescopage comme ça dans l'histoire, de tout temps changer les perspectives, puis d'aller très loin dans le passé, puis très loin dans l'avenir, ce serait dur, mais de faire aussi un rapport historique avec ça. Sororité, le nous des filles. À un moment donné, toi, tu assistais à la lecture ou à la Maison de la culture, la petite patrie, Roson à la petite patrie. Quand j'avais fait le choix pour ce show-là, il y avait plein de textes en nous. Puis là, à un moment donné, je me suis demandé si c'était trop, mais je l'ai laissé parce que c'était manifeste là, que c'est présent dans l'œuvre. Puis c'était beaucoup le nous des filles. Mais les filles, entre guillemets, là, les filles, ça veut dire les femmes, mais qui ne sont pas des madames. C'est-à-dire, ça va être une fille de 70 ans, là. C'est-à-dire, tu comprends, je veux dire, qu'on n'est pas rigoriste sur la façon d'être une femme, là, qu'il faut absolument avoir des talons hauts, du vernis à ongles pour être une vraie femme. Mais la sororité, c'est ça. C'est l'esprit d'amitié entre les femmes, de alors qu'on sait que c'est dur aussi entre les femmes, là, ils ne sont pas fines entre elles souvent. Mais y a, la sororité, c'est important. Là, je tourne en rond.
Sinon, si on peut continuer la discussion de manière plus informelle, off the record, en allant fumer une cigarette, j'ai vu qu'il y avait...
Ça fait deux fois qu'il dit aller fumer une cigarette.
Ah, pardon. J'aime ça fumer des cigarettes avec mon amie Hélène Monette. j'ai vu, c'est ça, qu'il y avait aussi deux bouteilles de vin. Ça peut être donc pour meubler la discussion aussi. Mais il ne faut pas amener nos verres dehors. Hein? Non, c'est ça. OK. Ben alors, merci beaucoup. Et le prochain rendez-vous, c'est que, qu'est-ce qui se passe?
Merci d'être venu en si grand nombre. Je suis étonnée.
Oui. Alors, merci Hélène Monette. Merci à Jonathan Lamy. Et puis à Chris Ma. Et j'aurais envie de dire, oui, peut-être que ce qui ressort de cet entretien, c'est qu'Hélène donc joue volontiers le rôle de critique et d'esprit pour remettre en question les choses avec humour. Il s'agit vraiment d'être tous égaux, hein, de ne pas se prendre pour d'autres. Et, oui, la mauvaise conscience, hein, on n'est pas tranquille, hein, on ne se repose pas. On est là pour partager un bon moment, mais tout simplement. Alors, je vous remercie d'avoir participé à cet entretien, d'avoir assisté. On vous invite, comme on dit souvent, à prendre un verre de vin de l'amitié, et puis de parler justement plus librement, d'échanger avec nos invités. Bonne fin de soirée. La prochaine activité, donc, de la Maison de la poésie, ça se trouve être le festival. Ça va débuter le 28 mai, ça se termine le 3 juin. Il y a des spectacles en salle toute la semaine, des activités aussi à la librairie Olivieri. Et bien sûr, il y a le chapiteau avec tous les éditeurs, près de 80 éditeurs représentés, des lectures sur la scène du chapiteau, place Gérald Godin. Cet entretien était enregistré et donc il sera diffusé sur le site de Radio Spirale. Merci, bonne fin de soirée.